Connaissez-vous les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'activité humaine, telles que la corneille noire, le renard ou encore la pie bavarde? Ces espèces qui souffrent d'une mauvaise réputation, c'est mal aimé. Tiphaine Debron, artiste et illustratrice naturaliste, leur consacre une exposition qui propose de porter un autre regard sur ces différentes espèces. En partenariat avec l'INSPE de Digne-les-Bains, le vernissage de l'exposition avait lieu le jeudi 15 janvier, exposition qui se poursuivra jusqu'au lundi 2 mars 2026 sur entrée libre. Dans ce reportage, vous entendrez Tiphaine Debron, artiste et illustratrice naturaliste également connue sous le nom de Typhon, sur l'envie de représenter et valoriser ces êtres vivants classés nuisibles, chassés de manière illimitée dans certains départements et trop souvent victimes d'une image populaire et culturelle dégradée depuis des siècles. Le but de l'exposition Les Mal-Aimés est de sensibiliser à leur sauvegarde, au vrai rôle essentiel de leur présence dans l'écosystème et de l'équilibre auquel ils contribuent. Cet entretien sera suivi d'un court échange avec Éric Vautero, chargé de mission culture de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation d'Aix-Marseille Université.
Bonjour, je suis Tiphaine Debron et du coup plus souvent sous le nom de Typhon, nom d'artiste que j'ai un peu contracté entre mon prénom et mon nom de famille, qui a toujours été présent, donné par des amis, donc c'est comme si je continuais un petit peu mon chemin. Et donc du coup je viens à la base du design d'espace, qui regroupe un petit peu l'architecture, la scénographie, le paysage. Au fur et à mesure, ce qui me plaisait le plus dans ce type d'études, c'était vraiment la partie dessin dans les projets à construire. Donc j'ai toujours défendu aussi le vivant par ces projets-là, de manière naturelle, parce que ça a toujours été très lié à moi depuis l'enfance. Et donc j'ai continué avec un master, toujours dans ce domaine, et puis le Covid a frappé. Et je suis retournée dans le maraîchage, dans l'agriculture urbaine. Je suis tombée à Avignon, que j'ai beaucoup aimé, parce qu'à la base, je ne viens absolument pas du sud-est, mais plutôt du centre de la France. Et donc, ça a ouvert une autre possibilité pour créer du lien, pour refaire du lien entre les habitants et le vivant au sein de la ville. Et donc, ça a ouvert un premier projet d'illustration à la toute fin de ce service civique où j'étais, qui était de monter un parcours pédagogique pour les habitants et pour pouvoir un peu témoigner de ce qui se passe sur place, de ce qui est produit, de ce qui est protégé, de ce qui est défendu. Donc ça, c'était super et ça m'a permis de lancer un peu l'entreprise d'illustration et de lancer mon statut d'artiste officiellement au passage. Donc cette année, ça va faire 4 ans que je fais ça.
Donc tu es artiste, illustratrice, naturaliste. Comment on passe de l'illustration à la pédagogie? Est-ce que ça t'est venu petit à petit ou est-ce que ça t'a paru évident dès le début?
Je pense que ça m'a paru évident dès le début. J'ai toujours dessiné, il y a eu des périodes plus creuses que d'autres, mais quand c'est revenu, je me suis toujours dit que c'est par le biais du dessin qu'on peut transmettre quelque chose. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est la grande force de l'illustration, c'est vraiment le côté donc émerveillement, toucher l'émotion, même qu'elle soit différente chez n'importe quel être humain, puisque chacun a sa sensibilité. Mais du coup, oui, ça me paraît complètement essentiel, évident qu'il y a un message à faire passer à travers le dessin et que ça le soutient au passage et que ça permet de soutenir le discours aussi qui peut être demandé, soit par le commanditaire, soit juste par mes soins, quand j'ai un projet comme cette exposition, par exemple. Et donc, oui, il y a toujours un message à soutenir pour moi qui va vers la pédagogie, vers la transmission, qui me plaît beaucoup et qui résonne énormément et que j'ai envie de développer.
Est-ce qu'il y a des thèmes privilégiés sur lesquels tu travailles ?
Bien évidemment, le vivant revient très 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 souvent. J'ai tendance à favoriser toujours la faune et la flore parce que, de mon point de vue, l'être humain a déjà beaucoup de place sur Terre. Donc j'aime bien mettre en valeur tout ce qui est discret, tout ce qui va être à la fois infiniment petit, infiniment grand, ce qui fait partie de notre environnement mais qu'on va plus forcément observer. Donc moi, ça devient un peu mes sujets de prédilection naturellement. Donc le naturalisme n'est pas forcément venu tout de suite puisque je viens pas de ce même domaine. Mais en tout cas, il y avait déjà des questions d'enjeux sur la préservation de l'environnement, sur le sauvage, sur l'écologie, des choses comme ça qui étaient déjà bien présentes dans mes études. Et donc, le naturalisme est venu petit à petit. Donc, clairement, je suis autodidacte. Je continue de m'informer au quotidien, tant sur la lecture que sur de la visite de sites, que sur des échanges avec d'autres collègues illustratrices ou même des amis photographes ou des choses comme ça. Donc toujours se nourrir au fur et à mesure pour pouvoir continuer à nourrir ce domaine aussi et à partager derrière.
Alors au site de Digne-les-Bains de l'INSPE, elle proposait donc une exposition intitulée « Les mal-aimés ». Un mot sur ce titre, qui sont ces mal-aimés? À quoi est consacrée cette exposition que tu proposes?
Eh bien, c'est très drôle parce que quand je propose souvent, quand je parle de ces illustrations, donc avec le titre « Mal aimé », souvent ça fait aborder cette question en premier lieu, c'est pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi les mal aimés alors qu'on aperçoit souvent dans mes illustrations, une des premières, ça va être le renard roux ou le jet des chênes. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas qu'en partie, un bon nombre d'espèces communes en France qu'on peut croiser facilement, soit dans son jardin, soit en allant en forêt, mais en tout cas des espèces qui sont bien locales en France, une bonne dizaine sont inscrites dans une liste qui a été nommée par le Code de l'environnement et le ministère de la Transition écologique. Et donc cette liste, ça s'appelle les ézodes, anciennement les nuisibles, aujourd'hui ça veut dire espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'activité humaine. Et je rajoute toujours déclarées par l'être humain lui-même. Parce que, bon, bah, encore une fois, on met sur le dos de cette faune beaucoup de troubles, soi-disant, sur l'activité humaine, que ça peut être à la fois le domaine forestier, agricole, aquacole, plein de domaines différents. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien réinterroger, c'est surtout l'équilibre qu'on a pas mal détruit par la destruction de cette faune en masse. Donc voilà, ça, c'est une ouverture à un débat constant, que ce soit en exposition, sur des marchés ou même à partir du moment où je dessine ce type de sujet, quoi.
Et est-ce que tu constates que c'est un sujet un peu sensible ou polémique ?
Je peux le constater parce que, en tout cas dans le domaine naturaliste, c'est assez connu. En dehors, le grand public n'a pas souvent connaissance de cette liste qui quand même perdure depuis des années, même s'il y a certaines espèces qui arrivent à en sortir. Mais pour autant, oui, je conçois que c'est assez sensible. Surtout, ça dépend avec qui je peux avoir les discussions, parce que ça m'arrive de tomber sur des chasseurs en direct quand je suis sur des marchés ou des choses comme ça. Et en même temps, c'est assez intéressant. Moi, je suis pour ouvrir le débat sans animosité, mais essayer en tout cas d'être à l'écoute dans un sens comme dans l'autre, même si, bien sûr, qu'il y a des choses sur lesquelles je suis assez intransigeante et que moi, je re-questionne vraiment le côté avoir le même équilibre tant du côté humain que non humain, que pour moi ça a du sens de plutôt essayer de vivre de manière heureuse, de coexister, de cohabiter sur cette terre parce qu'on en fait tous partie. Donc oui, clairement. Mais après c'est assez chouette, clairement, de pouvoir supporter ce type de sujet parce qu'on sait qu'on fait quelque chose d'engagé. Et moi, c'est justement pour ça que je suis allée aussi dans ce domaine-là en tant qu'artiste. C'était aussi pour porter une voix que pour ces êtres qui ne le peuvent pas.
Alors, c'est pas la première fois que tu exposes. Il y a eu une première édition déjà à Avignon, peut-être d'autres éditions précédentes ou peut-être d'autres à venir aussi.
En effet, il y a eu Avignon, donc l'INSPE d'Avignon qui m'a d'abord contactée en 2025, en pensant que j'étais toujours aussi à Avignon. Mais entre-temps, je suis partie vivre à Toulouse, donc je reviens de manière régulière en Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis un an. Donc Avignon, qui a eu lieu en septembre 2025. Ensuite, aujourd'hui, on est à Digne-les-Bains. L'exposition de Digne-les-Bains aura lieu jusqu'au début mars, le 2 mars à peu près. Et ensuite, nous aurons Aix-en-Provence, qui suivra juste après, du début du mois de mars jusqu'à fin avril. Et il y aura aussi certainement le site de Marseille qui accueillera certainement plus tard, soit fin 2026, soit peut-être en 2027. En tout cas, ça permet un chouette rayonnement dans cette région. Ça, c'est très, très cool.
Oui, concernant le site de Digne-les-Bains, l'exposition donc commence le 15 janvier et vous pouvez aller la voir jusqu'au 2 mars, jusqu'au lundi 2 mars. Est-ce qu'on peut avoir une idée des types d'espèces représentées et peut-être une description de l'une d'entre elles ?
Carrément. Aujourd'hui, j'en suis à une quinzaine d'illustrations. Et en tout cas, pour reprendre cette liste des ésones, mais moi, j'ai aussi ouvert à tous les animaux qui sont clairement persécutés par la chasse, qui sont discriminés, qui sont aussi malmenés par une culture populaire, un peu avec des, en tout cas, des croyances infondées depuis longtemps, ou ouvert à des polémiques assez importantes, avec des débats politiques assez denses. Donc là, clairement, je pense que le loup vous vient en tête. Ensuite, il y a d'autres illustrations que j'ai ouvertes aussi un peu aux anciens animaux qui ont été beaucoup persécutés pour leur côté un peu mystique, qui serait lié un peu à des anciennes croyances liées à la malfaisance, à la malédiction, des choses comme ça. Donc ça va être certains sont croisés avec les ésotes d'ailleurs, donc comme la corneille noire ou le corbeau freux. Et moi, je vais ensuite ouvrir à plusieurs espèces de chouettes, plusieurs espèces de serpents, donc aussi m'atteler un petit peu au domaine d'herpétologie. Et donc la technique que j'utilise la plupart du temps, en tout cas pour toute cette série, c'est l'aquarelle et le crayon de couleur, parce que c'est une technique qui est assez facile à prendre en main et que je peux emmener un peu partout, étant donné que je bouge énormément. Et aussi, j'ai tendance à pas juste représenter l'espèce en tant que telle sur juste une feuille blanche, mais essayer de recréer un décor en arrière-fond, donc essayer d'immerger l'espèce dans son environnement, histoire de proposer plus d'immersion aussi à celui ou celle qui va regarder cette illustration. Donc si on prend l'exemple de l'affiche que vous verrez certainement pour cette exposition, le renard roux, ça a été la toute première que j'ai faite, clairement c'était aussi l'idée d'être invité un peu dans cet émerveillement, à le contempler, à simplement prendre le temps de regarder. En tout cas, moi, j'invite toujours à un petit peu la lenteur, la contemplation. Ça fait partie de mes maîtres mots, un petit peu dans ma démarche artistique, dans ma démarche philosophique aussi, depuis longtemps, depuis même mes années d'études. Et donc, clairement, on va rester sur du dessin naturaliste pur et dur, mais j'ai toujours tendance à donner un regard très expressif à toutes ces espèces, parce que c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est par ce biais que moi, je partage un peu ma passion pour eux, en tout cas mon envie de les défendre. Et j'ai l'impression que c'est comme si on se transmettait un regard l'un vers l'autre, de reconnaissance, de considération. C'est un mot que j'utilise très souvent pour ce domaine.
Et alors, pour se représenter, quand on rentre dans la pièce, là, concernant le site de Dean, c'est dans une pièce. Combien d'illustrations à peu près? Quel format? Est-ce qu'il y a uniquement des illustrations ou est-ce qu'il y a d'autres types de supports?
Alors oui, donc à Digne, on a une quinzaine d'illustrations. L'idée, ce serait d'en arriver au double, même peut-être plus, parce qu'il y a du monde sur ma liste. Et donc j'ai très hâte de pouvoir continuer un petit peu ces illustrations à côté de mes autres projets. Et à côté, je pratique souvent la sculpture, donc sur argile, depuis pareil, je dirais 3-4 ans. Et j'espère pouvoir aussi apporter ce type de médium-là aux expositions, parce que bon, les illustrations sont en format A4, étant donné que je me déplace beaucoup par le biais du train. Il faut que je sois assez minimaliste dans mes travaux, même si j'aimerais qu'ils soient immenses, bien évidemment, que ça prenne un mur entier, ça me plairait beaucoup, mais bon, ce ne sera pas possible longtemps sur le point de vue logistique. Donc, même pour ce qui est des sculptures, je dois rester assez minimaliste. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup de pouvoir proposer ce biais-là, d'observation aussi, d'essayer de faire émaner un autre type de considération par ce biais. Et enfin, j'aime bien aussi pouvoir exposer quelques carnets de croquis, quelques récoltes que je peux faire aussi pendant mes randos, des choses comme ça, même si j'habite encore en pleine ville, mais dès que possible, je m'en extrais. Et j'essaye en tout cas de conserver avec moi, donc soit quelques plumes, quelques insectes, et toujours partager mes connaissances sur ces sujets qui pourraient être accessibles à tout le monde, quoi.
Sur le processus de création, tu en as déjà parlé, mais concernant les outils que tu utilises et notamment le travail à la main comparé à l'outil digital, est-ce que tu utilises les deux ?
En effet, j'utilise les deux, mais seulement pour la partie quand je réponds à des projets de commanditaires. Donc ça peut être à la fois pour des parcs naturels régionaux, pour des assos environnementales assez connues comme la LPO, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu pas mal de mairies aussi qui souhaitent un peu embellir la commune en recréant des parcours pédagogiques sur la biodiversité, et puis bien évidemment aussi des écoles, donc comme l'INSPE qui me permet aussi de montrer mon travail sous une autre forme, une partie qui est très personnelle, que j'ai choisie. Mais du coup, pour la partie commanditaire, donc projet pédagogique, je vais souvent faire la partie croquis sur un outil digital, parce que bien plus facile pour les allers-retours, pour les modifications, un peu de mise en page, de création de décors, des choses comme ça. Même si je reste toujours attachée à la technique traditionnelle. Donc une fois que les croquis sont terminés sur la partie digitale, je repasse au papier, à l'aquarelle, au crayon de couleur. J'ai toujours du mal à dissocier l'aquarelle du crayon de couleur. Moi, ça fait vraiment partie de mon travail. Les deux sont souvent ensemble. Parce que l'aquarelle me permet un petit peu de poser les aplats, les couleurs de base et de proposer un peu ce côté vaporeux, très doux. Et en fait, les crayons de couleur derrière me permettent de rajouter un peu de nuance, de contraste. Moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, ça me permet vraiment de rendre ça plus intense, plus immersif, parce que je trouve que quand on regarde un paysage, il y a toujours 1000 détails à observer. Et donc, ça me plaît d'essayer de le représenter comme ça. Après, ça m'arrive de faire du pastel aussi, à côté, et de voir si ce médium peut aussi fonctionner pour du dessin naturaliste. Et donc, pour ce cas, j'utilise plutôt les pastels Carandache, qui, eux, sont plus faciles à prendre en main, peuvent se tailler. Donc, ça fait des chouettes résultats, des beaux pigments de couleur aussi.
Et pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer en particulier ?
Alors, comme message de fin, souvent, je reparle un peu de... Ce qui a été un peu le déclencheur dans tout ça aussi, c'est le mémoire que j'avais fini d'écrire pile l'année du Covid et que j'ai jamais pu présenter. Mais en tout cas, le sujet partait un peu de cette envie de valoriser un peu le fait d'être sensible, d'être lent, d'être dans l'émerveillement, dans la contemplation, dans la considération. Et donc le titre, c'était « Habiter la terre en poète ». Et en fait, c'est resté comme un fil rouge, un guide, même depuis que j'ai lancé un peu mon statut d'artiste. Et en fait, ça reste quand même une pensée qui est toujours présente, qui est de toujours inviter à en tout cas ralentir, parce qu'on est toujours dans un rythme très effréné, en tout cas dans notre société, c'est aussi un atout de savoir regarder comme il faut, de savoir s'arrêter et de surtout savoir considérer chaque être vivant que l'on côtoie sur Terre. C'est pas toujours le cas. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est vraiment pas toujours le cas concernant l'être humain. Et donc, oui, ça reste souvent mes maîtres mots et je finis toujours en parlant de coexistence heureuse dans tout ça.
Merci Tiffaine Debron. Donc Typhon également, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tu as un site internet également.
En effet, j'ai un site internet depuis pas longtemps. J'ai mis du temps à le mettre en place, mais le site internet est visible maintenant. Si vous tapez mon nom sur internet, Tiffaine Debron ou Typhon Illustration. Après, c'est possible de me retrouver bien évidemment sur les réseaux. Donc sur Instagram, c'est souvent Typhon tiré du bas et T-I-P-H-O-N. Puis aussi sur Facebook, sur LinkedIn aussi. En tout cas, juste en tapant mon nom, on me retrouve facilement et il y a possibilité de feuilleter un peu le portfolio et de voir ces illustrations de plus près.
Merci. Et on rappelle donc qu'à Digne-les-Bains, l'exposition est visible donc à l'INSPE du 15 janvier au 2 mars 2026. Exposition donc Les Mal-Aimés de Tiffaine Debron. Merci.
Merci beaucoup.
Éric Votero, vous êtes chargé de mission culture de l'INSPE d'Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, c'est l'inauguration d'une exposition Les Mal-Aimés avec Tiffaine Debron. Comment s'est fait la mise en lien avec cet artiste ?
Alors, Tiffaine Debron est une artiste qui a travaillé à proximité d'Avignon pour mettre en valeur la signalétique d'une ferme urbaine qui s'appelle le Tipi. Et comme nous pratiquons sur le site de l'INSPE d'Avignon un regard sur ce qui est proche de notre institut, comme nous sensibilisons nos étudiants à l'école du dehors et à la nature en ville, nous nous sommes rendus au Tipi et nous avons découvert ces illustrations. Et de là, de fil en aiguille, on est remonté jusqu'à Tiphaine en se disant que voilà, le regard qu'elle portait sur cette ferme urbaine pouvait être fort riche pour enrichir là encore le regard de nos étudiants et la formation. Et on a découvert que voilà, elle avait bien d'autres productions et une autre vie artistique. Et voilà, fort de cette découverte, les quatre sites de l'INSPE, Aix-Marseille, Digne et Avignon, ont souhaité qu'elle puisse faire partie de la programmation culturelle de cette année 2025-2026, année universitaire, et faire bénéficier de son regard voilà, très engagé qu'elle propose ses œuvres à nos étudiants.
Alors, l'exposition a lieu via la bibliothèque universitaire. Est-ce que c'est une pratique assez courante? Est-ce que vous proposez régulièrement ce genre d'exposition?
Alors, l'idée que l'on conduit dans la programmation culturelle, c'est de faire du lien avec la formation, faire du lien avec les ressources dont dispose l'INSPE. Et il est vrai qu'il est toujours intéressant d'adosser une exposition à la valorisation des collections de nos collègues de la BU. Et je crois que ce soit dans une littérature très scientifique ou dans la littérature de jeunesse, on a beaucoup d'éléments qui peuvent faire écho à certaines pratiques artistiques. Et là, en l'occurrence, ce regard sur la nature, la biodiversité, le vivant, pour élargir à ce qu'on pourrait peut-être englober dans des humanités environnementales, c'était un joli dialogue entre l'exposition et les ressources dont nous disposons à la bibliothèque.
Est-ce que c'est une exposition qui est uniquement dédiée aux étudiants et étudiantes ou est-ce que c'est ouvert au grand public ?
Alors l'exposition est ouverte au public puisque les sites de l'INSPE voilà, permettent cet accès et j'allais dire que même au-delà, c'est une exposition qui pourrait tout à fait intéresser les écoles de proximité pour venir à la rencontre de ces œuvres et questionner justement ces mal-aimés que Tiphaine de Bron a mis en scène sur le site de Digne avec beaucoup de soin.
L'exposition est gratuite, c'est à la salle d'exposition de l'INSPE, 15 avenue Joseph Reynard. Il faut monter donc au premier étage et donc sur quelle période se déroule cette exposition ?
Alors cette exposition a débuté le 15 janvier, elle se poursuit jusqu'au 2 mars et il est vrai qu'il faut que vous montiez au premier étage de ce magnifique bâtiment qu'est l'INSPE et vous serez accueillis déjà par les œuvres de Tiphaine parce qu'il y a une petite vitrine à l'entrée qui vous indiquera que vous êtes sur la bonne route et que vous allez pouvoir voilà entrer en contact avec ces mal-aimés.
Et peut-être qu'on peut préciser les horaires d'accès à l'exposition ?
Alors, les horaires, le site de Digne est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Merci tout le monde et donc bienvenue à cette exposition Les Mal-Aimés de Tiphaine de Bron du jeudi 15 janvier au lundi 2 mars 2026. Merci Éric Votero.
Merci à vous et puis merci à Fréquence Mistral de se faire écho de ces actions qui font vivre le territoire.